Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenons soin des autres. Marceau s'en vient prendre soin de vous autres. Et nous autres, ben, on s'en reparle demain. Bonne fin de soirée, les amis.
Boulevard 102.1. Spotify 10,99 par mois, Patreon 5 $, abonnement au câble 55 $, journal 24 $. Boulevard 102.1. La meilleure musique. Les podcasts, tout ce que tu dois savoir sur l'actualité, puis des vidéos de Reg sur nos médias sociaux. Bye-bye, OnlyFans. Tout ça pour la grosse somme de 0 $. Application gratuite, web radio gratis, FM gratis. Boulevard 102.1. La vraie solution à l'inflation.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Salut, bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1, espérant que vous ayez passé une belle journée. Ce soir, on parle de finances avec notre ami Pat Raymond, ex-gestionnaire de patrimoine, ex-militaire, ex-god de radio, qui fait toujours des podcasts financièrement parlant. Il est en studio avec nous et je suis très fier de l'accueillir, mesdames, messieurs, Pat Raymond!
Hey, bonsoir!
Hein? Comme si t'étais au centre Vidéotron.
Bonsoir tout le monde, ça va bien!
Quand tu viens chez nous, c'est comme si tu venais dans un gros amphithéâtre.
Oui, mais c'est le fun le soir, Yann, parce que contrairement aux chroniques qu'on fait sur l'heure du dîner, des fois, tu sais, c'est...
On est pressé
dans le temps. C'est un petit peu plus serré dans le temps. Ouais. Et là, le soir, comme ça, on peut, sans dire qu'on chill, on peut amener le sujet puis le développer un peu plus.
Oui, puis on met ça surtout en style podcast, tu sais, format plus libre où on n'est pas limité par le temps. Puis on peut avoir des discussions sans tout le temps aller straight to the point puis avoir des entrevues très serrées. Oui. Nécessairement, ce soir, on va parler de finances, si tu le veux bien, en raison de ton background.
Bien sûr.
Puis en raison du fait que tu es un gars qui fait beaucoup trop attention à son argent et que tu as pris ta retraite beaucoup trop jeune. On va peut-être avoir des trucs un moment donné, mais je sais pas si tu as vu ça aujourd'hui, c'est dans la section argent du groupe Québécois. Il y avait une chronique, je pense que c'est une chronique de Mario Dumont qui parlait de la complexité des congés de TPS que Justin Trudeau a donné pour ce qui est des Canadiens. Ouais. Tu sais, pour monsieur et madame tout le monde, bon, il y en a qui vont être contents d'avoir des congés de TPS. Là. C'est quoi? C'est 5 % de moins que tu vas avoir à payer sur la facture. En bout de ligne, à la fin de ton de toutes ces semaines-là, parce que ça dure à peu près 2 mois, ben, tu vas avoir fait une économie, j'en suis persuadé. Mais je pense au gérant de dépanneur, lui, qui a à peu près 5000 produits, qui va avoir à peu près 5 heures. Parce que lui, il est, de ce que je comprends, dans l'article de Mario Dumont, c'est qu'il ouvre à 5 heures du matin, puis il ferme à 23 heures le soir. Fait qu'il va avoir 6 heures pour rentrer dans son programme informatique. C'est un indépendant. Hein? Ouais. Fait qu'il va avoir 6 heures pour rentrer dans son programme informatique pour enlever la TPS de tous les produits qu'il doit détaxer. Là. C'est une job, là.
Et après ça, 2 mois après, il va devoir le refaire.
Oui, c'est ça. Puis, tu sais, est-ce que c'est tout de l'informatique qui est à la fine pointe, là, mettons, 2024? Puis là, ben, tu dis, OK, ce que je fais là aujourd'hui, tu vas me l'enlever comme dans 2 mois. Je pense pas. De ce que je comprends, c'est que l'individu va devoir refaire ça à la main. Puis c'est comme ça pour la plupart des marchands.
Exact.
C'est incroyable quand même.
À mon avis, le consommateur préférait ne pas avoir de congé de TPS par empathie pour les commerçants. Moi, je pense que la plupart des consommateurs ont beaucoup d'empathie pour les marchands et les commerçants. Puis en même temps, il y a beaucoup d'items qui n'ont pas de TPS dessus. Là. Fait que d'autres vont penser qu'ils vont faire énormément d'économies. Mais quand tu fais le tour de l'épicerie, tu n'en as pas de TPS. C'est dans les allées, la TPS. Là.
Ouais.
Fait que c'est certains items qui ont été sélectionnés. De très bons items, d'ailleurs, aussi. Hein, on parle de chips,
la bière, les sapins de Noël.
Les sapins, ben oui. Ça, je sais pas si ton sapin est monté à ce statut de l'année, toi, mon cher Yann. Mais il reste que... Tu sais, on va peut-être décliner certaines dépenses ou des choses qui sont quand même importantes à savoir dans le temps des fêtes, parce qu'on l'oublie avec la fameuse carte de crédit qu'on a commencé déjà à utiliser. Et c'est le compte de janvier qu'on est en train de bâtir. On bâtit le compte de janvier présentement.
En fait, le compte de janvier que toi, oui, tu bâtis. Moi, j'espère ne pas bâtir de compte en janvier. Je vais essayer de l'oublier comme la majorité des gens.
Mais tu te sers de ta carte présentement. Ouais. Là,
ben oui.
Fait,
ben
ça
oui
va sortir au mois de janvier.
Mais je veux juste revenir sur le fait que parfois, le gouvernement, ouais, pense faire la bonne chose, mais met, ouais, des bâtons dans les roues des gens qui sont en affaires. T'sais, on l'a dit, bière, friandises, ouais, les journaux, les magazines, les mets préparés. Ouais. Les commerces sont remplis de produits qui vont être touchés par la détaxation temporaire.
Oui.
Et c'est surtout de la façon dont ça a été fait. Il y en a qui ont dit, OK, ben on va détaxer l'alcool jusqu'à un certain pourcentage, oui, puis le reste, ça va continuer d'être taxé. Les blocs Lego, ça va-tu être taxé ou détaxé? Ah, oh, c'est des jeux, on va les détaxer. C'est une fiscalité qui est quand même avancée, là, quand tu dis des poupées dures versus des poupées molles. Il y en a un des deux qui va être détaxé, puis l'autre pas.
Il va avoir plein d'erreurs aussi.
Le gouvernement est difficile.
On dirait qu'on les aime pas, nos entrepreneurs. Est-ce qu'on aimerait plus comme juste avoir des fonctionnaires, qu'on serait dans un pays comme dans certaines autres gestions, où on aurait juste des gens qui travaillent pour le gouvernement? Ce serait plus facile à contrôler.
Oui. Tu sais, on en a souvent parlé, toi et moi. Bon, on est un peu de la droite économique. Là, on regarde les gens en affaires, puis on ne peut pas faire autrement que d'être empathique à leur égard quand il arrive ce genre de situation-là. Mais force est d'admettre que sont hyper importants pour notre société, ces gens-là. Les PME, c'est le poumon du Québec, là. Et de, oui, voir qu'on tente une fois de temps en temps de leur nuire, que la paperasse est... t'en as de la paperasse, ça n'en peut finir. On complexifie les choses. Puis au niveau de la fiscalité, c'est pas toujours évident. On parlait souvent dans le temps, il y a 10, 15, 20 ans, Pat, des enfers... Non, des paradis fiscaux.
Oui.
On dirait qu'on a slacké un peu, là, mais pour ce qui est des paradis fiscaux dans les médias, je sais pas pourquoi, mais peut-être parce qu'on a découvert qu'au Canada, c'est un enfer fiscal. Ça se peut-tu que ça soit trop compliqué pour rien? Toi qui es dans les chiffres depuis...
C'est un enfer administratif, soit. Fiscal, ça peut dépendre. Mais c'est compliqué d'être en affaires.
Hey, le gouvernement me dit, « Hey Yann, moi là, t'es travailleur autonome ou t'es en, oui, affaires, tu perçois de la TPS, de la TVQ à chaque année. » Ben là, je vais essayer de te prédire qu'est-ce que tu vas devoir me verser, puis il va falloir que tu me le verses à l'avance, avant même, toi, de l'avoir chargé à tes clients.
Oui, exact. Ça dépend de la méthode que tu vas prendre, la méthode simple, l'autre méthode. Mais effectivement, tu as raison. Et ce travail-là de mandataire, de TPS, TVQ ou TPS, TVH, là, dans la taxe de vente harmonisée ailleurs au Canada... Bien, c'est le commerçant de 30 000 et plus qui va être mandataire de prendre ces taxes-là.
C'est ça.
Il va devoir, on va devoir les remettre aux 3 mois, au mois, annuellement ou semestriellement, dépendamment à quel niveau que tu es rendu.
Parce que la première année est excitante, là. Tu sais, tu as ça dans ton compte. Tu as la TPS,
si quelqu'un prend
annuel,
effectivement, il y en a qui se financent avec ça, là, pendant un bout de temps.
Mais la deuxième année, tu as le gouvernement qui dit, ben là, cette année, tu vas prélever à peu près tant. Fait que tu vas nous demander tant. Oui, mais attends un peu, je n'ai pas encore gagné cet argent-là, puis tu me demandes de te rembourser.
Effectivement, c'est projeté. Comme le travailleur autonome qui a des acomptes provisionnels, il a fait une très bonne année, et maintenant, il tombe sur les acomptes provisionnels, produit son rapport d'impôt jusqu'au 15 juin. Évidemment, il a dû payer, comme tout le monde, le 30 avril, mais peut produire jusqu'au 15 juin. Mais dès le mois de juin, il y a des acomptes provisionnels qui commencent.
Exact.
Juin, septembre, décembre, mars, basé sur le revenu qui a été généré l'année d'avant.
Ouais.
Mais ça se peut que cette année, ça va être différent.
Ça peut être une année de merde, effectivement.
Et aux 3 mois, si tu dépasses... tu tombes en pénalité en plus des intérêts, ces deux choses.
Ouais. Mais ça, il y a des gens qui ont accepté ça.
C'est lourd, ça.
Pour que ça se fasse, ben oui, il y a des gens qui ont accepté ça. Puis je comprends qu'il y a des gens, malheureusement, on en a dans le milieu de la radio, là, qui est en affaires, puis qui ont décidé de prendre la TPS, la TVQ, puis tout dépenser ça. Il faut que je paye de l'impôt, mais là, c'est pas le temps, fait que je dépense tout ça. Ce qui fait en sorte que les gens se sont ramassés dans la marde, puis le gouvernement se sont ramassés avec d'énormes pertes. Mais en même temps, tu sais, pour les gens qui ont toujours été à jour, c'est comme une façon un peu de nous prendre notre argent alors que nous autres, on pourrait la faire travailler, cet argent-là.
Bien, il faut dire, petit bémol là-dessus, la TPS-TVQ, il n'y a pas de tolérance. Tu sais, c'est vraiment pas votre argent comme commerçant. Je sais qu'il y en a qui vont se financer un bout de temps avec ça. Il faut vraiment la remettre. Et la TPS TVQ, si un propriétaire d'entreprise décide de fermer son entreprise, ça l'arrête pas les dus parce qu'il devient personnellement responsable, va devoir faire faillite personnellement. Puis encore, ça, en tout cas, vous voyez avec les experts, là, on avance ça ici. Mais je suis certain de mon coup là, par rapport au fait que c'est solidairement, là.
Mais
personnel,
si
t'es solidaire
là,
ça, à ton entreprise.
Je comprends tout ça, mais si on est rendu là, c'est parce qu'il y a des gens qui ont abusé. Là. Pour qu'ils mettent ça si restrictif.
Ah, mais il y en a des crosseurs aussi. Ah, là. On veut bien défendre les commerçants, puis on veut bien protéger, puis la plupart des gens sont honnêtes, puis ça travaille fort, puis il y en a qui finissent par une faillite au bout de 5 ans. C'est injuste. Mais il y a quand même beaucoup de crosseurs aussi.
Oui, mais c'est quoi beaucoup de crosseurs? Parce que moi, là, d'accepter de
j'ai
faire...
pas la statistique, Yann.
D'accepter de faire des lois pour les maillons faibles de la société, honnêtement,
oui, je comprends ton point.
Je pense qu'il y a plus de propriétaires de PME, hommes comme femmes, qui sont honnêtes puis qui font les choses de façon honnête. Puis de se faire mettre cette pression-là... Tu sais, 2022, t'as une année de fou. 2023, t'as une année de fou. Puis tout d'un coup, 2024, comme tu l'as dit, c'est une moins bonne année ou encore, tu sais, t'es travailleur autonome, tu tombes malade.
Ben oui.
Puis t'as le gouvernement qui te prélève et qui te demande encore cet argent-là. Ouais, mais t'as plus, je l'ai pas encore gagné.
On présume que tu vas gagner encore autant, sinon plus, l'année prochaine.
Oui, puis est-ce que t'as-tu déjà eu vent qu'il y avait eu comme des ententes? Là, je sais pas, y a-tu un fonctionnaire qui t'écoute au téléphone, puis tu sais, tu pleures tellement qu'il dit « OK, je vais te laisser une chance vu que t'es malade cette année » ou t'as pas le choix, puis tu vas être pénalisé avec d'énormes intérêts?
Ben, je pense qu'il y a toujours des recours puis des ententes possibles, mais ça reste que c'est un dû... Effectivement, il doit y avoir des exceptions, pas que je parle à travers mon chapeau, mais il faudrait que je vérifie exactement le texte de loi, mais probablement des exceptions sur quelqu'un, par exemple, qui a une maladie grave, quoi que ce soit, dans une réalité où, au niveau juridique, là, il y a sûrement quelque chose qui a déjà été amené de l'avant pour, par exemple, d'arrêter la pénalité ou des choses qui peuvent se corriger. Il y a toujours les amendés au niveau fiscal. On peut toujours faire... une modification rétroactivement parce que la personne, quelqu'un s'empêche pas une personne de prendre un avocat aussi parce qu'il y a une maladie grave, puis les acomptes provisionnels continuent. Évidemment, tu les payes pas, tes acomptes provisionnels, tu vas tomber automatiquement en pénalité et en intérêt. Mais si tu communiques, je dois dire une chose, puis bon, je veux pas défendre, puis comme tu sais, j'ai des amis à l'ARC, puis j'ai des amis à Revenu Québec.
Mais en fait, c'est les seuls amis que tu auras parce qu'ils veulent ton bien, puis ils veulent l'avoir. Ouais.
Le pire, c'est qu'ils sont fins, puis ils ont un grand cœur, puis ils ont des formations, justement, pour sincèrement, une approche, ça a changé un petit peu dans les dernières années, d'avoir une approche plus personnalisée, accommodante, et il faut les appeler. Il faut communiquer avec eux, prendre une entente, il y a toujours des ententes. En train de dire que ça va effacer la dette. Non, non, vous devez de l'argent à l'Agence du revenu, vous devez de l'argent à Revenu Québec, comme M. Coderre, d'ailleurs. Bien, il va falloir éventuellement que ça soit réglé, payé, parce que personnellement, on devient responsable de ces dettes-là. Les dettes d'impôts, tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont roulé, mais finalement, ils roulaient avec l'argent des impôts. Les dettes d'impôts, c'est de l'argent que tu dois à ton voisin, c'est l'argent que tu dois à tes parents, c'est l'argent que tu dois... À des personnes âgées dans un sens. C'est l'argent de l'impôt, c'est de l'argent de notre belle société. Je sais qu'on a le cynisme facile des fois de dire, ben oui, mais c'est quoi qu'ils vont faire avec ça? Ils vont engager, puis ils vont se voter encore des salaires, puis ils vont se faire des structures par-dessus des structures, puis
en
ça
fait,
finira
ça,
plus.
C'est pas du cynisme, ça, c'est la vérité.
Il y a peut-être du vrai aussi. OK, j'essaie d'être juste. Il y a du vrai aussi. Mais en même temps, plus que des salaires, plus que du monde qui gagne bien leur vie, ben ça fait travailler des commerçants aussi. Mm. L'argent revient, hein?
Mais
l'argent
by the way,
revient dans l'économie.
Pour tes amis qui sont à l'ARC, ou encore Revenu Québec, garde-les comme amis parce que c'est tes seuls amis que tu vas avoir pour
ils
de vrai.
Ils sont fins, sincèrement.
Oui, ils veulent ton bien puis ils vont l'avoir même après ta mort.
ça coûte cher mourir, c'est bien ce que tu viens de dire. Ça coûte très cher mourir en impôts. Hein?
Tu l'as-tu calculé comment ça allait te coûter, toi qui es si prévoyant?
Bien, l'assurance-vie va couvrir une bonne partie. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être roulées aux conjoints, il y a quand même une structure, mais on parle d'une planification successorale à ce moment-là.
Ouais.
Dans le cas, exemple, de mes immeubles, il faut absolument que je vende stratégiquement certains immeubles. Il ne faut pas que j'attende que je sois rendu, je ne sais pas, moi, 87 ans, j'ai encore tous mes immeubles, qu'éventuellement, au décès, ben, c'est réputé être vendu cette journée-là de décès. Or, c'est le gain capital... Qui va être payé par la succession, tu sais, qui va avoir un gain capital à payer. Fait que
mais
là, il y a des stratégies à faire.
Admettons que tu meurs à 100 ans, là, puis tu avais tous ces immeubles-là, ces immeubles-là reviennent à tes enfants. Est-ce qu'ils sont imposés là-dessus?
Bien, la succession a un gain capital à régler, c'est sûr.
Fait que je comprends. C'est sûr. Je comprends un peu plus puis pour là, toi la, ce que veut dire la planification maintenant.
À savoir si c'est tout payé aussi ou si c'est.
Moi, j'en ai pas de problème de richesse.
Fait un chalet, tu sais, des fois, il y en a qui disent ben, les enfants, ils auront un chalet, mais ils vont avoir le gain à capital aussi. Le chalet est réputé vendu. Ouais, mais je suis marié, ils sont au. Bon, ben oui, il peut être roulé au conjoint-conjointe. Il y a des règles de roulement. Mais puis en passant, je ne suis pas fiscaliste, hein, je suis juste passionné de ça. Fait que des fois, je peux faire des coins ronds, vérifier avec vos experts, c'est certain. Ici, on est en discussion, puis c'est sympathique. Puis on aime ça parler aussi pour que les gens comprennent. T'sais? Puis moi, je me décharge de ça. Le fait de ne pas être un expert en fiscalité, mais un passionné, puis je suis un ancien gestionnaire, pas de portefeuille, mais de patrimoine, ça me permet d'avoir certaines connaissances, peut-être plus que mon oncle, ma tante. Mais d'un autre côté, il faut toujours aller rencontrer un planificateur financier pour son plan successoral. La fiscalité, c'est le nerf de la guerre, Yann. C'est
sûr.
Vraiment le nerf de la guerre d'une gestion de fortune,
pour être sûr
la fiscalité.
De faire une belle transition, puis tu sais, quand tu meurs, veux, veux pas, il y a des gens qui sont en deuil. En tout cas, je te le souhaite qu'il y ait des gens qui soient en deuil quand tu vas mourir. L'idéal, ce serait ça, là, qu'il y ait des gens qui pleurent.
D'avoir fait assez de bonnes choses pour qu'il y ait des gens qui pleurent à mon départ.
Mais si en plus, tu sais, il faut que tu les mettes dans le stress parce que, bon, t'as pas fait de testament, t'as pas planifié l'après, ça doit pas être évident là, quand t'es là-dedans. Tu sais, je jasais avec quelqu'un, puis là, c'est peut-être un peu plus dark, là, mais quelqu'un qui avait un conjoint qui s'est suicidé. Puis il n'y avait pas de testament de fait, puis c'était quelqu'un qui était assez fortuné. Puis ça a été complexe de tout régler ça, parce qu'autour de cet homme-là, ben, il y avait la famille, il y avait les frères, il y avait les sœurs, il y avait le père, la mère qui était toujours en vie, et tout le monde voulait leur petite partie à eux. Là. Donc tout ça s'est ramassé en cours. Il y avait des enfants au travers de ça. L'ancienne conjointe qui était la conjointe, en fait, du gars qui s'était suicidé, c'est complexe, là.
Ça peut devenir tordu aussi parce que t'as les émotions, t'as de la peine, il y a de l'argent. C'est là des fois qu'on voit les vraies personnalités des membres de la famille. Il y a une ex qui était encore mariée souvent, puis finalement elle est toujours là dans le décor. Puis bon, qui mérite quoi? Comment on divise tout ça? Ben c'est sûr qu'on a une responsabilité. Puis puisque t'en parles, on peut amener le point suivant, c'est le mandat de protection puis le testament. Je sais que c'est pas sexy sur Instagram en selfie, mais il faut absolument faire ça. T'sais. À partir du moment qu'on laisse quelque chose à quelqu'un, à partir du moment qu'on a des enfants, qu'on a une réalité, il faut absolument régler. Je sais que c'est le coût d'un voyage dans le sud, mais il faut régler ça à un moment donné, Yann, le mandat de protection. On a quand même des probabilités très élevées d'éventuellement perdre nos cognitifs, de perdre certaines notions. Peu importe, il arrive toutes sortes de réalités. Un AVC, mon ami Gaétan, à 53 ans, fait un AVC. Là, c'est la curatelle qui est dans le décor. Il a pas fait son mandat de protection, mais en même temps, début de cinquantaine, la plupart des gens qui nous entendent en ce moment, ils ont probablement pas fait de mandat de protection. Là, c'est assez normal. On s'attend pas qu'à un moment donné, on peut faire une AVC puis que c'est la curatelle qui prend le relais de mes décisions financières. Dans son cas, bon, il n'y a pas d'enfant, il n'était pas marié, tout ça. Mais c'est fou. Mais c'est le gouvernement, la curatelle.
Oui, c'est ça. Mais
c'est
lui,
le gouvernement qui s'occupe de ta vie financière par la suite.
Je ne sais pas si tu l'avais nommé, mais je connais cette personne-là. Là.
Oui,
tu sais, lui, la chance d'être bien entouré, là, de gens qui l'apprécient.
Ah, il y a 1300 amis, Gaétan. Pas juste sur Facebook, dans la réalité.
Oui. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui se sont occupés de lui. Puis je sais qu'à chaque fois que tu viens faire un tour à la station, tu sembles aller faire un tour pour le voir, pour lui dire salut.
Pas loin, en plus.
Fait que c'est pas tout le monde qui est attriqué comme Gaétan. Lui, à 50 ans, il était encore jeune, il restait comme 50 autres années à vivre.
Absolument.
Pouf, AVC. Puis là, ben, il se ramasse à être sous la curatelle publique. Mais la chance qu'il y a, c'est qu'il y a des amis comme vous autres qui essayent d'améliorer son sort.
Je dois dire que la curatelle fait une belle complicité avec les amis qui sont au passage choisis, triés sur le volet. Là, moi, dans mon cas, je suis là-dedans, qui ont levé la main pour dire on devient des amis consultants aussi avec la curatelle. Donc, il y a une complicité qui fait toujours dans le meilleur, j'allais dire, du patient. En tout cas, de l'individu, dans ce cas-ci, Gaétan, qui n'a pas tout son cognitif, mais il est tout là, Gaétan, il est vraiment tout là, sauf qu'officiellement, il n'a pas eu encore le sceau d'approbation pour dire qu'il peut prendre ses décisions, qu'il peut signer des choses, qu'il peut... Fait que là, il laisse sa vie au système, au gouvernement, des très, très bonnes personnes, la curatelle. Moi, j'étais impressionné. C'est du bon monde. Il faut être fait fort pour faire ça. Là.
Ouais. Mais c'est quand même rassurant.
Mais c'est rassurant de savoir que ça existe quand même.
Puis en passant, je te remercie parce que c'est toi qui m'as rassuré là-dessus. Parce que je me posais la question. Supposons qu'à 55 ans, il m'arrive quelque chose de grave. Je ne suis plus capable de m'occuper de moi-même. J'ai plus une scène. Qu'est-ce qui se passe? Ben là, tu m'as appris qu'il y avait la curatelle, ce que je savais pas. Tu sais, moi, dans ma tête, il y avait juste le chèque d'aide sociale qui était là pour m'aider si jamais il m'arrivait une catastrophe, si je pouvais plus travailler, j'étais inapte au travail. Ouais. Les assurances, si j'arrive à 60 ou 65 ans, mettons, de préférence 65, ben là, j'ai le fédéral puis le provincial qui peuvent me donner le maximum de ce qu'ils peuvent me donner. Mais de savoir qu'on a comme un palier de plus de protection, c'est-à-dire que tu peux pas tomber plus bas que ça parce qu'on va s'occuper de toi, ça m'a beaucoup rassuré.
Et c'est lourd sur le système, sur nos impôts. On dit, y a moitié de nos impôts qui s'en vont dans le système de la santé, mais ça en fait partie aussi. Puis Gaétan, il est pris soin. Dire, on peut être fier d'être Québécois dans ce sens-là. Puis encore là, j'essaie de faire l'équilibre avec le cynisme qu'on peut avoir des fois, mais il est ici, dans un centre ici à côté, à Le Bourgneuf, la fameuse maison des aînés là, qui a coûté quelques centaines de mille par porte. T'sais, je sais que ça a coûté cher, mais il est tellement bien. Il est heureux dans sa condition, malgré tout. Il est heureux, bien entouré et de ses amis, comme tu l'as bien dit, mais aussi du personnel dévoué. Moi, je vais là, puis je suis toujours étonné et surpris, et c'est rafraîchissant. Puis quand on repart de là comme amis, on dit pas, écoute, une fois que je revienne demain, je ne suis pas sûr, tu prends soin de lui, on va-tu le laisser de même? On n'est pas inquiète.
Tu te dis qu'il est bien.
Il est bien entouré. Ouais. Fait que, tu sais, le système, des fois, il faut le dire, hein, quand il y a des belles choses aussi que le gouvernement peut faire pour des gens comme ça, vulnérables, démunis, qui arrivent à un accident cardiovasculaire en bas âge. Puis ça, je veux dire, c'est pas exceptionnel, ça arrive. On connaît tous quelqu'un qui a passé par toutes sortes de symptômes, des trucs, où à un moment donné, il a perdu de certaines, comment dire, des forces, des habiletés, tout ce qui est cognitif, finalement. Là.
Hey, mon maudit, tantôt, tu m'as parlé de Denis Coderre, puis tu m'as fait rappeler cet après-midi, j'ai vu une nouvelle sortir encore sur Denis Coderre, qui veut se présenter pour être chef du Parti libéral. On va lui souhaiter bonne chance s'il veut vraiment se lancer dans la course, puis s'il veut aller en débat, parce que j'imagine que son passé de maire de Montréal et son passé de député fédéral va refaire surface. L'Agence de revenus du Canada, qui réclame plus de 266 000 $ en impôts impayés au candidat à la chefferie du PLQ, Denis Coderre. Mm-hmm. Ça s'ajoute maintenant à ce qu'il devait déjà. Donc, il doit maintenant plus de 400 000 $ aux autorités fiscales. Il vient de vendre sa maison, puis il n'avait pas remboursé ce qu'il devait.
Mais je pense qu'il y avait une maison principale. Je m'avance, là. Mais
maison de son ex-conjoint.
Une maison principale, puis une maison qui n'était pas...
Je
présume qu'il y a du gain en capital sur une autre demeure.
Oui.
Qui doit être justifié, expliqué et payé. Si c'est une maison, ça va vite quand même. Là, si, par exemple, il y avait un gain en capital de plusieurs centaines de milliers de dollars, le prix qu'il a payé, le prix qu'il a vendu, la différence entre les deux. Le gain en capital, c'est qu'il y a une moitié qui va dans les poches de l'individu qui vend, mais l'autre moitié s'ajoute à son impôt et que ça a peut-être fait justement un taux marginal tellement élevé où il n'a pas été capable pendant un an ou deux ou trois, il a accumulé des années où il devait 54 000, 60 000, ça va vite, là. Puis là, il est rendu autour de 400 000. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il va être capable de mettre tout ça au clair avant la course
mais au-delà de ça, comment tu peux prétendre
de ce printemps?
T'sais, je sais qu'il y en a qui le font, mais comment tu peux prétendre être un bon gestionnaire quand tu n'es pas capable de t'occuper de ton propre argent? T'sais, il peut y avoir des bad luck, Pat. Là. Tout le monde a eu des bad luck dans la vie, mais si, t'sais, on se lance pas tout à la chefferie du Parti libéral du Québec.
Ça se peut être plus blanc que blanc.
Oui.
C'est un peu le piège aussi.
Les check-ups, mon gars, là, t'as pas idée à quel point... T'sais, moi, j'ai fait partie d'une gang qui faisait des check-ups. Là. T'as pas idée à quel point on est capable de trouver des affaires que le candidat qui voulait se présenter dans telle circonscription pour telle bannière. Là. T'as pas idée à quel point il y en a qui cachent des affaires. Puis ça peut être aussi simple qu'une balloune. T'sais, les gens déclarent pas les balloons qu'ils ont poignées. C'est en 2007, tu l'avais pas déclaré, là, mais t'as une balloune ici. Là. T'as été déclaré coupable en 2007. Là. Ça a donné un dossier criminel. Ça. Ouais, mais ça, c'était juste une balloune. Oui, mais il faut que tu le dises. Parce que quand les médias vont arriver puis ils vont rechercher, tu sais, Jean Tremblay, exemple, c'est un nom que je dis. C'est sûr et certain qu'ils vont le trouver parce qu'ils vont rentrer ta date de fête. Tu sais, c'est assez facile.
Il y avait un candidat à l'époque, c'était un candidat de la caque de mémoire qui était presque nu sur un bol de toilette.
Une jeune de 20 ans, une photo
qui avait circulé sur les réseaux sociaux. Faisait des années de... Ben, il est jeune, il ne faisait pas tant d'années que ça, mais peut-être 6, 7, 8 ans, peu importe. Des choses qu'on oublie.
Il a essayé de le faire avec
On s'en va en politique, puis c'est ça qui ressort. Puis
une
c'est
de
ça
mes bonnes connaissances, Laurent, qui était conseiller à la ville de
oui,
Québec.
Oui, Laurent Proulx.
Ils ont sorti des vieilles images de lui où il était en arrière d'un Ford F-150, puis il se faisait tirer à trois skis.
Ah oui, OK. Ouais,
il est en trois skis dans la neige, puis là, ben, les médias, hey, regardez Laurent Proulx, manque de jugement total. C'est pour te dire à quel point...
Avec son corps vert.
En politique, les journalistes essayent de trouver le petit bobo. Puis dans le cas de Laurent Proulx, je veux dire, pour lui, ça a bien été par la suite. Puis aujourd'hui, il s'est rendu un homme d'affaires accompli. Puis
oui, puis il va très bien, Laurent. Puis écoute, c'est un vétéran aussi.
Mais,
là.
Mais quand quelqu'un veut se présenter dans un comté, puis là, ben, moi, je suis responsable d'un comté X, là, puis là, il fallait que je fasse des recherches sur ces individus-là.
Oui.
Tu sais, j'avais trouvé une balloune de 2007. Là. J'ai dit, oui, mais ça, okay. faut que tu le déclares. C'est pas... Ça se peut que tu aies eu un manque de jugement dans la vie, puis tu te sois fait pogner par la police, puis tu te ramasses avec un dossier criminel. Mais écris-le.
Mais quand tu le dis d'avance, je pense que les gens peuvent faire fi, surtout quand ça fait très longtemps, puis on se dit tout, ben on a tout quelque chose. Tu sais, je sais pas toi, mais moi, me présentant en politique demain matin, probablement qu'on peut trouver de quoi.
Ouais. Moi, on peut rien trouver.
On peut rien trouver?
Non, parce que je dis tout en nom. Mais
en fait, ce qu'on peut trouver, c'est déjà su et connu.
Puis tu sais, j'ai pas de bobette sale non plus. Fait que non, j'aurais pas de crainte. Puis j'ai souvent checké des affaires.
C'est ça. Des fois, même dans le temps du Me Too, on se dit, ben oui, mais tu sais, ça se peut-tu que quelqu'un en 84, j'ai-tu une fille, tu sais, dans le temps, des tapes sur une fesse, ou ça, j'ai-tu fait quelque chose qui pourrait me revenir dans... Je pense que tous les gars, on a tous pensé de même, à un moment donné, on s'est dit, j'ai-tu fait des affaires de mon oncle dans le temps des années 80 qui étaient pas acceptables, mais qui étaient tolérées, puis c'était quasiment commun, puis que ça me revient plus tard, 30 ans plus tard, ou 25 ans plus tard.
C'est sûr que si tu me poses des questions, ça va, si on a toujours bien agi, ça brosse.
Mais il n'y a personne de parfait.
Exact.
En même temps, c'est comme pas une passe, mais presse sa palette avec M. Trump, qui est quand même un personnage qu'on aime haïr, mais qu'on aime aussi, on aime en cachette, parce que M. Trump, c'est une personnalité, à mon avis, c'est une personnalité, on connaît le produit. Fait que des fois, on aime mieux avoir quelque chose qu'on connaît, qui est loin d'être parfait, voire criminel dans son cas, on peut le dire, il était accusé et tout. Mais on connaît le personnage, on sait à quoi s'attendre, c'est-à-dire qu'on peut s'attendre à toutes sortes de choses, c'est pas précis, mais on sait à quoi s'attendre, c'est beaucoup, beaucoup de son côté imprévisible, mais on le connaît. Fait qu'on je pense que comme peuple, on aime mieux quelque chose qu'on connaît,
même
imparfait,
s'il est pas parfait,
que... une personne qui est trop parfaite, puis on se dit, ça nous énerve. Ça nous énerve, quelqu'un de parfait. Ça nous énerve.
Je donnais un exemple à mes élèves, je pense que c'était en 2017-2018, que je leur jasais. Ils me demandaient c'était quoi le succès, comment faire pour avoir du succès à la télé ou à la radio. Je dis, honnêtement, je ne sais pas, mais s'il y a un conseil que je peux vous donner, c'est d'être vous-même. Puis il y en a qui vont dire, ouais, mais vous dites tout le temps ça, mais c'est vrai, tu sais. Puis d'essayer d'être toujours parfait. Puis je vais te donner un exemple qui n'est pas le bon, mais tu vas comprendre pourquoi je veux te l'illustrer. Grégory Charles, à mes yeux, à moi, c'est un grand Québécois, un artiste incroyable, un homme hyper brillant.
Vraiment.
Qui aide constamment son prochain.
Oui.
Parce que j'entends régulièrement parler de Grégory Charles à l'extérieur des médias, puis on me le décrit comme ça.
Mm-hmm.
Mais à la télé, il a tellement de l'air parfait que ça passe pas. Les gens trouvent qu'il y a de l'air hautain et prétentieux parce qu'il y a de l'air parfait. À l'inverse, puis là, ça n'a pas rapport avec bonne ou mauvaise personne. Julie Snyder, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise personne. D'ailleurs, je ne la connais pas. Je n'ai jamais eu de cue à savoir si elle était gentille ou... Mais elle fait des entrevues en anglais où c'est tout croche. Elle se trompe. Des fois, elle se trompe de nom devant son invité.
Oui.
Puis les gens l'apprécient.
Elle est attachante, mais elle est vraie, même si elle tombe ses nerfs.
Parce qu'elle est imparfaite.
Elle est vraie.
On aime ça. On a l'impression que les gens qui sont imparfaits sont un peu comme monsieur et madame tout le monde, puis avec raison. Fait que moi, j'avais donné cet exemple-là. Grégory Charles, qui est à mes yeux un grand Québécois, qui est un grand artiste, qui est une bonne personne.
Oui.
Son image ne passe pas à la télé parce qu'il est trop parfait. Versus l'autre qui est tout croche, Lee Snyder, qui après accepte de faire des entrevues en anglais alors qu'elle ne connaît pas son anglais pantoute. Puis c'est drôle, puis on rit, ben, tout le monde l'appréciait dans le temps.
Oui.
Oui. Là, les gens l'apprécient encore.
Oui.
Mais tu as raison pour ce qui est Donald Trump. Personnellement, moi, Donald Trump, la personne, je n'en ai rien à battre. Le politicien, je n'en ai rien à battre. Une chose est sûre, c'est qu'actuellement, c'est lui qui va être le prochain président des États-Unis au mois de janvier. Mm-hmm. Puis il va probablement avoir un impact sur l'économie du Canada.
Assurément.
Mais il y a quelque chose qui est intéressant dans ce gars-là, c'est le fait de mettre ses couilles sur la table constamment, de dire... C'est qui run la business? C'est moi qui run la business.
Il n'est pas insignifiant.
Ben, si c'est rendu jusque-là, le fameux Trump Inc., là, si tu te promènes aux abords de ses hôtels, il y a des magasins où il y a ses propres tasses à café. Là.
Absolument.
Je veux dire, c'est parce qu'il est très imbu de lui-même, il comprend la game, puis c'est un gros, gros personnage. Puis les gens se sont attachés au personnage ou ont appris à détester ce personnage-là. Mais il n'en demeure pas moins que c'est un gars qui est extrêmement... impressionnant, surtout si tu lis tous ses livres. Là.
Il est fascinant.
Je ne sais pas si c'est lui qui a écrit ça, s'il y a eu un ghostwriter qu'on appelle, là, donc quelqu'un qui t'aide à écrire ton livre puis qui l'améliore là, si jamais il y a des petits défauts.
Ouais.
Mais The Art of the Deal, c'est exactement ce qu'il est en train de mettre en place quand il dit « Si le Canada ne s'occupe pas du fentanyl, si le Canada ne s'occupe pas des immigrants illégaux qui s'en viennent aux États-Unis, moi, lui, crisser une surtaxe de 25 %, il met ses couilles sur la table. » Toc! C'est moi le boss. Vous allez voir que le fentanyl, je veux plus que ça rentre chez nous. Puis vos immigrés illégaux, vous les gardez chez vous. Moi, m'essayer de faire de même de mon bord. C'est the art of the deal. Il met ça super gros. Puis en bout de ligne, ils vont peut-être s'entendre sur 0%. Mais comme le Canada a eu peur, puis qu'il a renforcé ses frontières, qu'il a regardé un peu ce qui se passait du côté du port de Vancouver en disant « Ouais, là, ça, c'est l'ouverture. C'est l'endroit où le fentanyl passe. »
Entre autres,
on va augmenter la sécurité.
Ça arrive l'Asie.
On va mettre des drones au-dessus au-dessus de la frontière canadienne-américaine pour être sûr et certain qu'on surveille nos migrants qui s'en vont.
Surveiller 9000 kilomètres de frontières, quand même.
C'est gros. Bien, il va avoir obtenu ce que Biden n'aurait pas obtenu. En étant exagérément grossier, il va avoir fait plus travailler la sécurité canadienne que Biden peut l'avoir fait dans un mandat de 4 ans, alors qu'il n'est pas encore président des États. Il est impressionnant.
Il est déstabilisant, typique de personnalités narcissiques.
Il fait peur à tout le monde.
Trouble de personnalité quelconque. Je ne suis pas expert là-dedans, pantoute. Mais c'est quelqu'un qui est déstabilisant. Je sais que lors de son passage entre 2016 et 2020, ou on peut dire 2016-2020, son entourage, c'est un type qui est difficile à vivre.
Ah, sûrement!
C'est vraiment pas simple.
Mais si Trump était normal, il serait pas là.
Mais apparemment que Biden, c'était plus cool. Mais moi, la question que je me pose tout le temps, là, comme dans la chanson, la question que je me pose tout le temps, l'Amérique t'aveugle de pleurer si ça continue. Mais la question... Vous avez compris le lien. La question que je me pose tout le temps, est-ce que je vais avoir un comme si c'était mon pays, un président gentil, diplomate, qui ne fait que serrer des mains, puis où je vais avoir quelqu'un qui est déstabilisant, presque pas équilibré, c'est un peu ça, avec un trouble de personnalité limite ou narcissique, appelle ça comme tu voudras, il rentre à quelque part, c'est lui, me, myself and I, tu l'as bien dit tantôt, tous les édifices qu'on retrouve, tu vas à Chicago, un édifice de Trump, tu te lèves à Vegas, tu regardes le désert au loin, il y a un édifice de Trump qui ressort, là. Tu sors du Central Park, il y a un édifice de Trump, il est partout, il est fascinant, et moi, je vais faire une confidence ce soir. J'aimerais l'haïr, puis j'aimerais vraiment ne pas l'aimer, puis j'aimerais être, tu sais, puis tu l'as dit, là, je suis un peu de droite économique, puis oui, effectivement, puis je tends vers la gauche des fois pour des inégalités, puis je suis pour ça.
C'est sain, en
mais je pense que oui, mais je ne suis pas capable de ne pas l'aimer, M. Trump. Je ne suis pas capable, et il me divertit, il m'amène une émotion, mais surtout, il me fascine.
Mais c'est le gardien du monde libre.
C'est un personnage qui me fascine. Et moi, je suis content qu'il soit élu. Ça aussi, c'est une confidence. Pas nécessairement parce que je souhaitais absolument qu'il préside les États-Unis, mais je me disais, en étant élu, il va nous emmener une couleur, il va nous emmener... Puis je pense qu'il y en a qui gardent ça en dedans, qui le disent pas, puis même des journalistes qui disent... C'est vrai qu'avec Trump, ça nous donne la viande. Les animateurs radio. Avec Trump, les médias, on a toujours quelque chose à se mettre sous la dent avec Trump. C'est divertissant.
C'est du bonbon pour tous les canaux.
Et on ne se tanne pas. Ouais. Et c'était 4 ans. Les 4 dernières années, est-ce que je me trompe, mais on a parlé quasiment plus de Trump que de Biden alors qu'il n'était plus élu. Là.
Il n'y avait pratiquement rien à dire.
Pas toujours pour les bonnes raisons.
Sur Biden, c'est ça. Mais tu sais, c'est le gars qui a rendu un peu particulier Vladimir Poutine, parce que Vladimir Poutine, pendant 4 ans, il ne savait pas quoi faire avec Donald Trump parce qu'il n'est pas capable de savoir il va-tu s'en aller vers là ou il va s'en aller vers là. Fait que Trump, que Poutine a dit, il est peut-être plus fou que moi. Ouais. Fait qu'on est aussi bien de se calmer. Trump est allé en Corée du Nord. Il a mis les pieds en Corée du Nord.
Dans le no man's land.
Pendant que Trump était là pendant 4 ans, il n'y a pas eu de guerre. Puis là, il veut rapatrier tous les soldats américains. Oui. Il veut les ramener aux États-Unis. Il ne veut pas envoyer ces gars là-bas si c'est des guerres qui ne nous concernent pas. C'est le gardien du monde libre. Puis c'est un individu qui est à part. Il fait peur à tout le monde. Il me rassure plus que Biden. Parce qu'il n'y a pas juste Donald Trump, il n'y a pas juste Joe Biden, ils ont des équipes au travers de ça. Puis si vraiment Donald Trump avait des idées complètement débiles, j'ose croire qu'il y a des gens qui sont autour qui pourraient dire « Monsieur Trump, on ne peut pas aller là. »
Il est entouré.
Donner football là, puis rentrer vos codes.
Il y a des milliers de personnes autour de lui.
Exact. Donc, tu sais, pour ce qui est de Trump, on va finir là-dessus. Oui. Tu sais, lisez « The Art of the Deal », là. Vous allez comprendre ses techniques, puis vous allez voir que tout le Canada, incluant François Legault, s'est fait avoir à avoir peur. Mais il a réussi à avoir ce qu'il voulait, c'est-à-dire plus de sécurité, puis à savoir s'il va augmenter les taxes comme il l'a mentionné. Bien, ce sera-tu 5, ce sera-tu 10, ce sera-tu 15? Peut-être, mais ce sera certainement pas 25% parce qu'il a donné un gros chiffre au départ pour déstabiliser tout le monde. Hey, je vais profiter du fait que t'es ex-gestionnaire de patrimoine, puis t'es un homme à retraite, t'as pris ta retraite très jeune, fait que j'imagine que tu sais compter. Quand on veut couper dans nos dépenses, là, mettons que quelqu'un dit, tu sais, moi, cette année, là, j'ai trop mis le gaz au fond en 2024. J'espère débuter mon année 2025, Pat, avec l'espoir de couper dans mes dépenses puis réussir à arriver dans l'argent que je gagne. Tu sais, actuellement, ce que je vois passer là, dans l'actualité puis ce que je vois passer sur les réseaux sociaux, puis il doit y avoir rien de plus frustrant que ça. Un couple qui travaille 40 heures par semaine. Le gars travaille 40 heures par semaine. La fille travaille 40 heures par semaine, puis il arrive pas. Il doit y avoir rien de plus frustrant que ça. Tu dis, est-ce que le monde est injuste parce que je fais juste travailler, puis j'ai pas de retour sur mon investissement, puis ma qualité de vie, j'en ai pratiquement pas. Je suis tout le temps stressé. Fait qu'il faut que je travaille des fois le samedi, des fois le dimanche, des fois le samedi, le dimanche.
Absolument.
On coupe pas en 2025.
Parce qu'avec le salaire, tu as raison de ce que tu dis, avec le salaire moyen actuel, ça marche plus.
Ça marche plus.
Ça marche plus.
Mais si on... Mettons qu'on a, je sais pas moi, mettons que tu as 20 ans, tu as gagné 35 000 par année à 20 ans, puis là, tu es rendu à 25, puis tu gagnes 40 000 par année. Si tu es plus pauvre que quand tu gagnais 25, tu as peut-être augmenté tes dépenses.
Bien, où est-ce qu'on peut couper pour répondre à ta question? C'est dans les dépenses variables.
T'sais, moi, quand tu me demandes, « Hey, Yann, où je peux couper? » Puis je te croise dans un Starbucks...
Ouais.
J'ai des petites choses à te dire.
Ben, on donne toujours l'exemple du Starbucks. Starbucks a de la difficulté dernièrement.
Hey, café à 8$.
Café à 8$.
À tous les jours. Puis des fois, moi, j'ai des collègues, là, pas
ils ont,
ici.
Ils
mais,
ont perdu leur président.
J'ai des collègues que c'est des fois, c'est 2 à 3 fois par jour c'est chez Starbucks. Là. Ça, c'est 25$, mettons, par jour de café truc, là, chose avec la crème fouettée. Là.
Oui.
25$ par jour. Compte ça sur un mois, compte ça sur un an, tu vas y avoir tes places aux économies.
En moyenne, c'est 1000$ par année, juste en café de toutes sortes. Là. Tu sais, quelqu'un qui prend un café à tous les jours, ou il fallait 365 fois peut-être 3, là, autour de 1000$. Des fois, il y a un petit muffin on the side, des fois, c'est un petit sandwich, machin, peu importe. Mais tu sais, juste les dépenses, je t'ai sorti une couple de chiffres, puis je suis content que tu m'amènes là-dessus parce que je voulais justement t'en parler. Tu sais, les chiffres de 2021, une famille, un ménage canadien moyen, 2 adultes, 2 enfants, c'est 8 000$ que ça coûtait toujours en argent net. Là. Il faut avoir travaillé pour quoi? 12, 13, 14 000. Là. Bon, avec les allocations de famille, le taux effectif est quand même plus bas. Mais des chiffres de 2021, ici, on ajoute la restauration, 2189, la restauration annuelle moyen pour un ménage. les deux ensemble, c'est une dizaine de mille. Là, aujourd'hui, 2000... on est peut-être plus dans le 12-13, d'après moi. Ça, c'est les chiffres de 2021. J'ai pas sur StatCan.
Écoute, je vais manger.
J'ai pas les chiffres plus récents.
Je vais manger bien relax avec ma blonde dans un resto familial. Resto-bar, mais le soir, c'est un peu plus. C'est un resto familial, mais le soir, c'est un peu plus.
Je comprends.
Resto-bar. On est deux. Je prends une ou deux bières, après un verre de vin ou deux, là. Plus un entrée, plus un plat principal, chacun.
Oh, oui, oui.
Puis on sort pas de là avant 170, 180 piastres avec le pourboire. Pense-y.
OK, j'allais te dire, on a pété le 100 piastres, mais on a pété le 150.
Oui, puis c'est un restaurant là, tu sais, qui est pas au centre-ville de Québec, il est à l'extérieur de Québec. C'est une super de belle place, l'ambiance est incroyable, mais 170, 180 piastres, quand j'étais, je te dirais, mettons en 2020, mm-hmm. je devais aller là une fois par semaine. Aujourd'hui, il me voit une fois par mois. Là. Une fois par mois, il me voit dans ce restaurant-là. Puis c'est pas la faute du restaurateur, lui. Il a vu ses frais augmenter aussi.
Mais fois 12, on n'est pas loin de 1500.
Oui, exact.
T'sais, depuis qu'on parle, là, on vient de mettre 2500 de côté là, avec les cafés et ces restos-là. En même temps, on dit, ben là, on peut couper. On n'est pas obligé de tout couper non plus. On peut peut-être y aller une fois ou deux mois, une fois ou trois mois. Mais assurément... J'ai dit au départ, avec le salaire moyen, ça ne marche plus. Fait qu'on ne peut plus tout avoir. Là. Il y a eu une période où, à un moment donné, vogue la galère, tout le monde avait un peu tout, puis on empruntait, puis ça ne coûtait pas cher d'emprunter pendant un bout de temps. L'argent n'était pas cher, puis tu dis, ben, soit je la gagne, je paye de l'impôt dessus, ou soit je l'emprunte, je paye moins cher en taux d'intérêt que je paye en impôt quand je travaille. Il y en a qui pensent de même. Là. Mais là, aujourd'hui, c'est plus ça. Là, aujourd'hui, ça coûte cher. Là. Bien, les cartes de crédit ont toujours été à 20 % là. Mais quand tu commences à accumuler, tu sais, le fameux...
Moi, j'ai 11 % sur ma carte de crédit.
T'as 11 % toi, pour les premiers mois ou pour toujours?
Pour toujours.
Parce que c'est du 9,99, t'as du 20, quoi.
Moi, il me semble que je suis autour de 11
%. Je ne paye jamais d'intérêt sur une carte de crédit, fait que je me fous un peu du taux. Mais il faut évidemment payer. Tu sais, si tu payes juste le paiement minimum sur une carte de crédit, beaucoup de gens qui pensent qu'à un moment donné, ça va se régler. Ben, ça va se régler, mais on parle de dizaines d'années, vingtaines d'années, trentaines d'années, dépendamment du montant que tu as mis. Tu sais, ça, autrement dit, ça ne va jamais se régler. Tu vas toujours traîner. Et moi, c'est pas vrai, j'ai déjà payé de l'intérêt. À un moment donné, j'étais arrivé à un solde, de peu importe le montant.
Regarde, j'ai dit 11, là, mais ça l'a augmenté. Là. J'étais à 12,9 %.
12,9 %?
12,9 %.
C'est très bon. Oui. Mais tu payes-tu des... Ben, je sais pas si tu vas y aller personnel, mais est-ce que tu payes des intérêts ou tu as fait à un moment donné une erreur ou tu pensais d'avoir payé? Ben, moi, je pensais d'avoir payé. Et
jamais, tu vois, mon solde de carte de crédit, c'est parce que là, les affaires de mes gars ont passé. Là, Microsoft, t'as un petit peu, là. Microsoft Ultimate à 26,43.
Toi aussi, t'as des Microsoft.
Oui. Fait que, tu sais, mon solde, là, je peux régler ça, là, trois cafés chez Starbucks.
Oui, ça va bien, ça va bien, ça va bien.
Mais j'essaie le plus possible de rien mettre sur ma carte de crédit. Des
Pourquoi?
Fois, on a juste pas
c'est
le choix.
Bon mode, c'est un beau mode de paiement, mais ce n'est pas un mode de...
C'est ma façon de me restreindre.
D'emprunt, par exemple.
T'sais, mettons que j'ai quelque chose de gros à acheter, bien sûr que je vais mettre ça sur ma carte de crédit, mais très rapidement, je vais essayer de rembourser ma carte de crédit pour me payer le moins possible d'intérêt. Là. Mais c'est une façon pour moi de me restreindre.
OK. Parce que moi, la carte de crédit, c'est un mode de paiement. Et à chaque semaine, je vais sur mon appli, puis j'envoie, je soigne un 500, ou je soigne ça, je regarde à combien je suis rendu, j'en mets à peu près. Mais à la fin... Il reste un montant, puis je veux vraiment aller au total pour ne pas payer d'intérêt. Mais tu sais que si tu te trompes d'un dollar, ben les intérêts sont chargés sur le montant complet. L'entente, c'est que tu as 21 jours de grâce pour payer le montant total.
C'est pas 30 jours.
C'est 21 jours, 3 semaines. Si tu ne payes pas le montant total puis tu te trompes de 10 piastres, ce qui m'est arrivé, ben j'ai payé les intérêts sur le montant total. Ça, c'est une chose. Le paiement minimum, si tu ne payes pas ton paiement minimum, tu as une coche à ton dossier de crédit, premier mois, deuxième mois, une coche. Le paiement minimum, lui, il est pour te garder en vie sur ton bureau
crédit.
De crédit.
Ouais.
Très important. Et l'autre affaire, puisqu'on parle des cartes de crédit, des petites notions, parce que moi, j'ai l'air bien smart, là, mais j'ai du monde qui vient de me parler des syndics en insolvabilité sur mon podcast, financièrement parlant. Donc, financièrement parlant, podcast, pour ça, je l'ai dit comme ça, là. Fait que j'apprends beaucoup de choses. Moi, j'apprends de quoi sur chaque podcast que je reçois des gens? Je sais pas tout, là. J'en mange de ça, mais à un moment donné, je n'apprends tout le temps. Fait que là, on dit, mettons, la carte de crédit est de... Peu importe le montant, il faut absolument que le montant soit toujours payé complètement. La cote de crédit, elle est, vérifiée à chaque période d'un mois. Et ce que je voulais dire, c'est que si tu as une carte de crédit qui est toujours loadée, exemple, une carte de crédit à 10 000, ouais, elle est à 9 800, et là, ben, tu dis, moi, je la paye tout le temps. C'est pas très bon. Tu es mieux d'avoir une carte à 20 000 puis de rester avec ton RIB de 9 800. Okay. Parce que idéalement, c'est 30 % de la carte de crédit qu'on doit utiliser. Et tout le reste que tu as accepté, tu as dit oui pour des augmentations. Moi, je dis tout le temps oui pour des augmentations.
Moi aussi, je faisais ça.
Mais je n'utilise pas plus sur ma carte.
Mais on se nuit en faisant ça?
Ben oui, parce que quand tu as une grosse dépense, exemple, ma fameuse thermopompe, les gens sont tannés de l'entendre parler. Mais je
on a cette thermopompe.
On a cette thermopompe. Mais c'était 16 000. Fait que j'ai mis 8 000 quand j'ai appelé le fournisseur. J'ai dit, on va mettre 8 000 sur une carte de crédit XYZ, puis on va mettre l'autre 8 000 sur l'autre carte de crédit. Évidemment, je ne voulais pas mettre 16 000 sur une carte de crédit qui avait 20 000 de limite, parce que là, je me rapproche trop de mon 20 000. La photo qu'ils vont prendre mensuellement, ben, ma cote de crédit va peut-être passer de 8,35 à 8,32, là, tu comprends, mais c'est pas tant que ça. Mais je veux pas ça. Je veux pas ça. Moi, à chaque fin de mois, le portrait de ma cote de crédit, c'est majeur. Puis là, je regarde toujours ce que j'utilise. Puis moi, j'ai des marges de crédit hypothécaire, de mes immobiliers. Puis des fois, j'ai fait changer des fenêtres, des trucs comme ça, puis c'est correct. On les utilise pour ces affaires-là. C'est des investissements. Mais là, à un moment donné, je regarde ma marge de crédit hypothécaire, j'en ai trop pris. Fait que là, il faut que je rebalance ça. J'essaie toujours, parce que j'ai des immeubles au personnel, j'essaie toujours d'utiliser en bas de la moitié de ce que j'ai de disponible sur mon crédit. Idéalement même en bas de 30 %.
Mais c'est où est-ce qu'on a failli, tu sais, pour ce qui est de l'utilisation des cartes de crédit? Moi, j'aurais aimé ça avoir un cours au secondaire. Là. Moi, je l'ai appris par la suite parce que, tu sais, je côtoyais des gens comme toi, puis ils m'ont dit, Yann, taux d'intérêt, telle affaire. Mais là, c'est v'là deux semaines. Je pense que c'est suite à une de tes chroniques, on avait parlé de crédit, puis la personne me disait, mais c'est pas si pire sur un an, tu sais, quand tu payes, mettons que tu dois 1 000 $, tu payes 200 $ d'intérêt sur un an, je dis, pardon? Elle dit, c'est pas si pire, elle dit, mettons que tu as un an là, que sur ta carte de crédit, puis tu fais, alors, en bout de ligne, tu vas juste payer 200 $. Je veux dire, d'intérêt, elle dit, ben oui, c'est 20 %. Elle avait l'impression que les intérêts étaient chargés à la fin de l'année. Là.
Mais non.
C'est inquiétant, là.
Oui.
Tu peux-tu l'expliquer?
C'est pas comme un prêt personnel.
Comment ça fonctionne? Tu dois 1 000 $. Mettons, on prend une carte à 20 %. Là.
Oui.
C'est 20 % qui est appliqué sur le 1 000 $ à chaque mois.
Oui.
Mais pourquoi on n'a pas appris
après ça, c'est...
aux jeunes garçons puis aux jeunes filles?
Après ça, c'est 1 000. Ça s'additionne. Exact. Ça s'additionne. Mais c'est un taux, il faut dire que c'est un taux annuel divisé par 12, mais qui s'accumule.
À chaque mois.
Oui. C'est le principe des rendements, des intérêts composés. Mais en l'envers, pour une dette.
Elle calculait, ben c'est juste 1 000 $ que j'ai sur ma carte de crédit, fait que c'est pas si grave. Là, tu sais, je rembourse mon paiement minimum, je suis toujours autour de 1 000 $, fait que c'est 200 $ à peu près par année. Elle disait que c'était tout à fait normal. Mais là, au bout de 5 ans, elle fille, tu t'es fait de folie.
C'est parce qu'elle passera jamais à travers, c'est ça. C'est sûr que 1 000 $, c'est quand même raisonnable là, d'avoir un solde de 1 000 $ sur une carte de crédit, là, est vraiment en bas de la moyenne. Puis si elle accepte de payer autant d'intérêts pour rien, bon, OK, c'est correct, là, mais en même temps. C'est ça qu'on veut dire, là. C'est en faisant le paiement minimum, avec le nombre d'années, c'est que ton capital, c'est ça, là. C'est combien tu mets sur ton capital, puis combien tu mets sur les intérêts.
Ouais.
Puis quand tu fais ton paiement minimum, une grande partie, c'est des intérêts. C'est le même principe que quand on rembourse une maison, les premières années, c'est quasiment juste de l'intérêt.
C'est des scènes.
Souvent, ce qu'on va donner en conseil de finances personnelles, ouais, c'est des scènes.
C'est des scènes de rembourser
ta maison. Si tu as un paiement minimum de 250, là, aujourd'hui, c'est quoi? C'est rendu 5 % du solde. Il y en a qui ont des soldes de 10 000. Ben, c'est un paiement minimum de 500. Tu es rendu un paiement de char pour le paiement minimum. Puis c'est quasiment juste de l'intérêt. Ben, pas juste, mais il y a quand même beaucoup d'intérêt là-dedans. Mais là, on dit, essayons de faire 600 ou 700, juste d'étirer un petit peu plus que le paiement minimum pour aller manger du capital. Pour au lieu que ça prenne 12 ans à rembourser, ça va peut-être prendre 8 ans à rembourser. Mais des fois, je vais donner des chiffres de même, c'est pas ça nécessairement. Mais c'est très long. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est très long à rembourser. Une carte de crédit de 10 000, ou moi, combien de fois j'ai dit à des gens, il y avait des cartes de crédit de 26, 27 000, 25 000. Ben là, j'ai dit, vous n'allez jamais rembourser ça. Ça ne se rembourse pas. À moins d'avoir un montant qui rentre demain matin, puis vous le prenez, puis vous remboursez votre carte. Vous n'allez jamais être capable de mettre des paiements en fonction de pouvoir rembourser. Et qu'est-ce que ça fait comme ça, pas comme solde, mais comme paiement minimum, une carte de 25 000 à 5 %? Ben c'est incroyable. Tu sais, ça ne fonctionnera pas. Fait que là, tu dis, ben, tu ne vas pas mettre 2 000, 2 500 sur ta carte en paiement minimum. Fait que là, ils perdent leur cote de crédit. Puis là, si tu attends trop longtemps, puis que tu t'en vas faire un refinancement sur ta maison, un refinancement hypothécaire, puis ce serait, le plus sage pour consolider tout ça puis de payer ça. Puis là, ta cote de crédit, elle a descendu parce que tu n'es plus capable de payer ta carte.
Exact.
Fait que là, va voir un courtier hypothécaire puis ça presse pour essayer de refinancer avec la maison puis de couvrir puis de payer la carte de crédit parce que là, ton paiement minimum est rendu trop élevé, plus que le char. Tu n'es plus capable de le payer, tu perds ta cote, puis quand tu vas essayer de refinancer ta maison, même si tu as de l'équité dessus, ça se peut que ça ne marche pas parce que tu n'as plus de cote de crédit.
Tu sais, je sais qu'il y a des gens
qui nous écoutent. C'est un cercle
vicieux. Oui, c'est un cercle vicieux. Je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent, Pat, qui sont extrêmement stressés par l'argent. Tu sais, je suis rempli d'empathie à votre égard, mais confiez vos finances dans les mains d'un expert. Quelqu'un qui est capable de vous expliquer comment faire un budget. Voici les endroits où votre argent fuit. Faites-le rapidement. Puis après ça, bien, une fois que ça c'est fait, vous pouvez impliquer des planificateurs financiers là-dedans qui vont vous expliquer comment ça fonctionne, comment sauver de l'argent. Toi, tu es un ex-gestionnaire de patrimoine, mais il y a des gestionnaires de portefeuille aussi par la suite. Mais impliquer très jeune, là, puis si, mettons, je parlais au jeune garçon Yannick là, à 16 ans, mettons 14 ans, quand j'ai commencé à travailler chez Ronald McDonald, à 14 ans, si je pouvais aller lui dire, Yann, bon, je sais que tu m'écouteras pas, grosse tête de cochon, mais tu as 14 ans, va voir tout de suite un planificateur financier. C'est l'idéal quand tu commences d'aller voir un planificateur financier parce qu'il peut grandement t'aider. Ouais, mais Yann, ça coûte cher un planificateur financier. Moi, je l'ai pensé longtemps. Je pensais que c'était genre par rendez-vous 200-300$ parce que le gars, c'est un professionnel, mais c'est pas nécessairement
comme ça qu'il
fonctionne.
Mais ça peut être ça aussi par honoraire. Ça dépend du planificateur. Puis souvent, ben, pour les jeunes, souvent, on fait une gestion de famille. On a déjà les parents. Des fois, on a le frère, sœur, puis là, le plus jeune. Mais là, tu sais, tu peux faire prendre des REER à un jeune qui travaille à 14 ans. Là. Tu peux prendre des REER à partir du moment que tu travailles, mais tu prends pas tes déductions tout de suite.
Ouais.
Tu prends tes REER, tu accumules tes déductions. C'est tes déductions, tu les prends lorsque tu vas avoir un revenu plus élevé.
Mais tu sais, l'idée, c'est
ça crée une habitude.
Oui, c'est de remettre tes finances, si ça va pas, si ça te stresse, c'est de remettre tes finances dans les mains d'un professionnel qui va pouvoir t'aider. Des hommes et des femmes qui ne font que ça de leur vie, qui vont être capables de remettre tes finances droites, ou du moins de te l'expliquer comment faire.
Absolument.
Mais il y a des gens, Pat, qui nous écoutent, puis j'ose espérer que c'est pas 10 % des gens qui nous écoutent, parce que, écoute, ça me rendrait triste là, pour vous autres, ce 10 %-là. Mais mettons que je vais être triste pour vous autres, c'est juste 1 % ou 2 %, mais il y a des gens qui retardent leur rapport d'impôt. J'ai déjà pogné des comptables qui se sont ramassés avec des clients qui avaient 7-8 ans de rapport d'impôt à faire. Les amis, vous avez du stress.
J'ai vu ça dans ma pratique.
Puis Stéphane Leblon m'avait déjà dit, il y a quelqu'un qui est arrivé chez nous, il avait 20 000 $ puis il voulait faire faillite. Puis là, il dit, ouais, mais tes rapports d'impôt, c'est quoi? Ils ont fait faire ses rapports d'impôt, puis finalement, il était capable de rembourser tout ça avec ce que le gouvernement lui devait comme argent. Mais, hey, t'as perdu 5 ans.
Il a tout perdu, ses allocations, des crédits remboursables, tout ce qu'il pouvait avoir droit, de crédit de solidarité, toutes les crédits.
Mais t'as enduré 10 ans de stress, tu sais, en faisant pas tes rapports d'impôt. Je donne un exemple plus fort comme ça, mais t'as enduré tout ce stress-là alors que finalement, t'étais plus riche que tu le pensais.
Parce que ça peut être très payant de faire son rapport d'impôt lorsque tu peux bénéficier de certains crédits. Puis on sait que la moitié de la population gagne même pas 40 000.
Ouais.
Fait que la moitié de la population peut très bien aller chercher des crédits en faisant son rapport d'impôt. Donc, ça devient payant de faire son rapport d'impôt. Je dis pas que lorsque tu gagnes plus, c'est payant de faire son rapport d'impôt. Il faut le faire, il faut payer sa juste part. Des fois, ça fait mal au cœur.
Pat Raymond, va-t'en pas trop loin. Oui. Je te garde après la pause parce que j'ai d'autres trucs à te jaser. Il nous reste encore quelques minutes à jaser. Je vous rappelle qu'on a le plaisir d'être avec Pat Raymond, ex-militaire. Donc, c'est un vétéran de l'armée canadienne. C'est un ex-gestionnaire de patrimoine. C'est aussi un maudit bon gars qui est collaborateur dans Marceau le midi qui vient nous voir. Tu es du podcast Financièrement parlant. Fait qu'on peut t'ajouter sur les réseaux sociaux et aller écouter tout ça si vous voulez entendre parler d'argent, bien entendu, des petits trucs comme Pat donne ce soir. On fait une pause, on revient.
Marceau, le soir. Le garage à Dan. Dan Garon a fait bien du ménage pour vous accueillir dans son garage tous les vendredis 18h. Il vous pousse les plus grosses tonneras qui se démoderont jamais. Un peu comme lui. Vous allez peut-être même entendre du vieux stock qu'on joue pas ailleurs dans la programmation. Le garage à Dan. Tous les vendredis, 18h.
Boulevard 101.
Gros party, c'est assez. Il faudrait rentrer. Yeah! Fais pas le fou, appelle-nous. On te ramène chez vous. Wouhou! Grosse soirée, on va chauffer pour ta sécurité. Oh, oh! 1-866 Desjardins, remercie-moi demain.
Oui, il y a juste moi, Rosalie Vaillancourt, pour être la porte-parole de l'Opération Nez Rouge et chanter aussi bien.
Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins, du Syndicat québécois de la construction et de Boulevard 102.1.
Tous les lundis de 18h dans Marceau Soir, ne manquez pas l'ex-ministre de la Justice, Maître Marc Bellemare. On jasera de justice, d'actualité et bien plus. Bellemareavocat.ca.
Entre locataire et propriétaire, il est important d'être sur la même longueur d'onde. Par exemple, après des travaux majeurs, j'ai le droit de
revenir habiter dans mon logement. Un moratoire protège actuellement mon locataire contre les évictions. Et mon locataire âgé
de 65 ans et plus est dorénavant mieux protégé contre les reprises et les évictions.
Mieux comprendre pour mieux s'entendre.
Locataire et propriétaire, informez-vous sur vos droits et obligations en matière de logement au québec.ca/droit-logement. Un message du gouvernement du Québec.
Salut, c'est Bob le chef. On a tous des souvenirs de nos temps des fêtes en famille. Pour moi, c'est les petits pains gumbo que me faisait ma mère. Des pains farcis à la viande avec une petite touche bien spéciale. Si vous ne connaissez pas les pains gumbo, venez le découvrir dans mon menu des fêtes chez Normandin. En plus des pâtes à la bourguignonne, un grilled cheese décadent, une poutine ragoûtante et l'original pizza fondue chinoise. Bref, juste du gros fun dans votre assiette. Normandin, ça fait plaisir.
Pendant les fêtes au diamant, super-héros et techniciens d'un studio télé éblouissent la famille par leurs acrobaties. Action! Dès le 19 décembre, en vente sur lediamant.ca. 20$ pour les 20 ans et moins, présenté par Éclore Aliments et GDG Informatique.
Allô, Nissan?
Oh, salut, Karine. Bon, désolé, on est un peu dans la folie des fêtes.
Ah non, c'est beau, je comprends. C'est tellement de planification.
Oui, mais c'est surtout le dernier mois où les clients admissibles obtiennent jusqu'à 12 000$ en rabais gouvernementaux sur le Ariya 100% électrique.
Oh, le décompte commence.
Oh oui! 5, 4, 3...
Faites vite.
Pendant la liquidation totale, obtenez en plus un boni Nissan de 5 000$ à la location du Ariya eVolve Plus eForce 2024. Donc, c'est jusqu'à 17 000$ en incitatif Toto. Jusqu'au 31 décembre, sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent, détails chez Nissan.
L'épicerie est de l'autre bord, hein?
Je sais. Faut juste arrêter ici avant.
Chez Tanguay?
Oui, madame.
Du 3 au 18 décembre, avec tout achat de 1 250$ et plus chez Tanguay, recevez une carte cadeau métro ou Super C de 150 à 1 000$. Certaines conditions s'appliquent.
Ici, compte du métal suédois sont de retour. Meshuggah. La tournée nord-américaine 2025 s'arrête au Centre Vidéotron le 28 mars prochain. Avec invités spéciaux Cannibal Corpse et Carcass. Billets en vente ce vendredi 10h sur gestev.com et ticketmaster.ca. Meshuggah au Centre Vidéotron. Une présentation Live Nation et Gestev.
Ah, le vieux Québec dans l'ambiance magique des fêtes, c'est tellement beau! Boulevard 102.1 veut vous en faire profiter. Mercado.fm vous propose un forfait de Noël au cœur du vieux Québec, comprenant une nuitée dans une suite junior pour deux personnes à l'hôtel Champlain, incluant le petit déjeuner, une place de stationnement et un coupon au marché de Noël allemand, donnant droit à une consommation et une gourmandise allemande. L'hôtel Champlain, un bâtiment historique alliant confort et modernité. Offre limitée, valide jusqu'au 23 décembre au Mercado.fm. FM.
Boulevard 102.1. De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple.
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Pat Raymond est avec nous ce soir. Pat Raymond, c'est un ex-gestionnaire de patrimoine, c'est un ex-militaire et c'est le gars derrière le podcast Financièrement parlant. Pat, comment on fait pour débuter en investissement? Il n'y a rien de pire que de rencontrer un homme...
Un budget.
T'as l'impression que... Bon, c'est peut-être parce qu'il met beaucoup trop de crème dans sa face, mais t'as l'impression qu'il a à peu près ton âge, puis il est déjà à la retraite, alors que oui. Toi, tu sais qu'il te reste à peu près 20 ans encore à travailler. C'est quoi le truc? T'as fait comment?
Ben, un budget, oui. C'est sûr que ça commence, tout commence par un budget. Je sais que c'est plate comme réponse. Puis moi, je dirais que j'ai travaillé beaucoup plus que la moyenne pendant un bon bout de temps. J'ai animé, ben, tu le sais, j'ai animé des soirées, des samedis soirs. J'étais à temps plein dans la vingtaine,
militaire.
Début de trentaine. J'étais à temps plein dans l'armée, contrairement à certaines personnes qui peuvent penser. J'ai pas une grosse pension, mais j'ai une petite pension, j'ai une petite rente. Et voilà. Mais je travaillais beaucoup. Et je mettais tous les sous de côté sans m'acheter rien. pour cumuler. Moi, je n'ai pas de divorce. Ça, c'est déjà un bon, c'est déjà un bon truc pour s'enrichir.
Ne divorcez pas, je restez pas emprisonné.
J'ai eu mes enfants dans la quarantaine. Donc, quand je suis arrivé, quand je suis arrivé dans la quarantaine, moi, j'avais cumulé. J'ai fait des bons deals immobiliers aussi. J'ai privilège d'avoir des parents qui m'ont laissé quelque chose. Mes parents m'ont quitté, ça fait déjà un bon bout de temps, ça fait 15-20 ans. Je dis 15-20 ans parce que, bon, un, ça fait 15, l'autre, ça fait pas loin de 20. Là.
Okay.
Et j'ai pris ces sous-là. Puis au lieu d'acheter une voiture, au lieu de faire des choses comme bien d'autres, moi, ma soeur, elle a vécu quelques années là-dessus. Bon, c'était réorienté. C'était correct, elle a fait des bons choix. Mais moi, j'allais investir ça en immobilier. Donc, pour moi, je me disais, qu'est-ce que mon père aurait fait avec ces sous-là? Puis je voulais comme... C'est comme s'il me regardait. C'est comme si mes parents me regardaient. Puis je peux pas flamber. J'ai vu mes parents travailler fort. Je peux pas flamber ça. Dans ma tête, moi, je peux pas changer de char. Je peux pas... jamais été vraiment matérialiste non plus. Ça m'a peut-être servi. Et j'ai investi. Bien, j'ai fait des mauvais deals. J'ai fait des bons deals. Dans la vingtaine, je me suis trompé, mais j'ai gagné plus que je me suis trompé. Et j'ai appris comme ça. J'avais la chance d'avoir une sécurité d'emploi avec l'armée. J'avais un bon revenu. Et un bout de temps, je vivais un petit peu plus élevé que mes moyens parce que, bon...